Bonsoir. Aujourd'hui, on se retrouve avec nos invités des FPP au Café solidaire de Deuxelles. Et parce qu'au cours des derniers mois, des révoltes populaires ont eu lieu dans plusieurs pays de l'Amérique latine. L'Équateur, Haïti, et Chili, Bolivie, Honduras, Nicaragua. Et ces révoltes, ils font écho aux révoltes qui ont lieu en Irak, en Iran, en Algérie et Hong Kong. On a l'impression d'être dans une période où des révoltes populaires, qui de fait c'est des révoltes politiques, apparaissent simultanément, même s'ils ne sont pas coordonnées. Alors, avec nos invités, ils vont se présenter eux-mêmes au fur et à mesure qu'ils vont prendre la parole, et nous allons revenir sur la situation en Amérique latine, à travers le soulèvement populaire au Chili et le soulèvement populaire en Équateur. Alors, pourquoi on peut faire cette démarche à travers la situation des deux pays, avoir une vue plus ensemble sur l'Amérique latine, c'est parce que cette vague de protestations et ces révoltes, même s'ils prennent des formes différentes, qui sont liées forcément à l'histoire sociale et politique de chacun des pays, et qu'on a vu même les étincelles qui ont mis le feu aux poudres, ne sont pas les mêmes dans chacun des pays, mais ont des éléments communs. Ces éléments communs, c'est la dénonciation des politiques néolibérales, la dénonciation de l'autoritarisme, et aussi, il y a d'autres points en commun, et c'est ceux qui la font et comment ces révoltes se font, et qui se font en dehors de ces structures et des partis traditionnels, parce que les partis droite et gauche mêlés, se sont relayés pour imposer ces mêmes politiques qui aujourd'hui sont qu'on condamne. Et d'ailleurs, cette situation doit nous parler aussi par rapport à la situation actuelle en France, par rapport aux luttes autour de la réforme des retraites. Mais je pense que pour commencer, il serait important. Bon, je viens de dire que dans chacun des pays, il y a des raisons différentes qui ont fait que soulèvement populaire a eu lieu. Mais au Chili, c'était l'augmentation des 30 pesos du ticket des métros. Et on va voir que la situation en Équateur était différente. C'est vraiment pour empêcher des réformes structurelles demandées par le Fonds monétaire international. Mais, bon, par exemple au Chili, est-ce qu'on pourrait penser que ces soulèvements auraient pu avoir lieu s'il n'y avait pas eu le mouvement féministe, s'il n'y a pas eu la lutte pour des retraites justes? C'est-à-dire, chacun de ces mouvements qui est ici, on les voit comme des spontanés, et ils ne viennent pas de nulle part. Alors, je vais demander Fernando, qui va se présenter, de nous dire comment l'insurrection actuelle s'insère dans l'histoire longue du Chili et qu'est-ce qu'elle exprime.
Donc, je suis Fernando Fernandez, je suis journaliste. J'étais déjà journaliste au Chili avant mon exil, suite à la dictature militaire. J'étais journaliste au sein du gouvernement. Et ici en France, j'ai fait ma carrière en grande partie au sein de l'agence France-Presse. Donc, par rapport à la situation actuelle du Chili, c'est vrai qu'on peut la situer dans un contexte très, très long de l'histoire, et dans un pays, dans une société qui a une longue histoire sociale, avec de hauts et des bas, selon l'histoire, et qui a fait plusieurs tentatives d'exercer son droit souverain à travers une constitution par de la base, et situation qui a été toujours abordée par l'intervention de l'oligarchie chilienne, et qui a connu peut-être le le plus grand choc lors de la dictature militaire en 1973. Et donc, cette histoire longue qui signifie de syndicats très puissants, des organisations de base très actives depuis le début de la République, depuis l'indépendance. Et pendant les premières décennies de l'indépendance, il y a eu déjà tentatives d'associations à la base. Et en même temps, il y a au niveau des grands complexes industriels, comme c'était le cas des mines de Salpêtre, dans le nord du Chili, il y a une conscience ouvrière et une action sociale qui s'est développée de façon très puissante. Donc tout ça a abouti d'une certaine façon en 1970 avec l'élection de Salvador Allende et à la tête d'un mouvement appelé l'Unité Populaire. Ce mouvement qui prétendait changer essentiellement la société a été mis à bas violemment. Et donc il s'est passé pratiquement, ils sont passés 10 ans jusqu'à 1983 avec tous les partis politiques, surtout les partis politiques qui ont été complètement désarticulés, complètement réprimés, complètement abattus. Jusqu'en 1973, comme je disais, il y a eu cet soulèvement, il y a eu cette première manifestation où, d'une certaine façon, l'action politique a été reprise justement par les organisations de base. L'action politique telle qu'elle, de façon officielle, ou ce qu'on entend comme action politique, était interdite. C'était la dictature qui avait le monopole de l'action politique. Donc, suite à la nécessité des peuples de se manifester politiquement, commence à avoir des organisations au niveau des bases, des organisations qui au début n'ont qu'un objectif parfois de survie. De survie, de se protéger, de survie parce qu'il y a énormément de chômage, parce qu'il y a énormément de pauvreté, qu'il y a énormément de répression. Donc, des organisations qui commencent à se créer spontanément pour se protéger de la police, pour se protéger de l'armée, pour fonder, par exemple, c'est intéressant de voir comment il y a énormément de ce qu'on appelle des boulangeries populaires, où les gens d'un quartier se mettent d'accord pour faire le pain pour tout le quartier, à moindre coût, bien évidemment. De même, il y a les fermes populaires. Dans n'importe quel lopin de terre, les gens commencent à planter des légumes, enfin, à chercher un mode de subsistance. Et ce qui est le plus important, et c'est une période très fertile, c'est la création d'un nombre très important des moyens d'expression et de communication au niveau des petites feuilles de papier, un ronéon. Les gens cherchent à mener une vie normale, ils ont une vie politique normale. Ce flux de la politique, ce flux populaire continue à se manifester, un crescendo, jusqu'à 1999, au moment où, par pression des États-Unis, et parce que la dictature ne lui convient pas, et organise un plébiscite pour savoir si Pinochet doit ou non rester. Ça crée évidemment un grand mouvement politique parce que, d'une certaine façon, les barrières sont levées. Et suite à cela, il y a un vote pour désigner le nouveau président de la République. Ce qui est intéressant de voir, c'est que tout cet accord s'est fait évidemment sans consultation de la base. C'est une consultation qui s'est faite avec le reste des partis politiques qui étaient souvent en exil, souvent dans une semi-clandestinité ou dans les parcelles d'activités que lui donnait la dictature. À aucun moment le peuple, à aucun moment la base s'est consultée. Donc cet accord s'est fait et la transition qui sort de ce processus, c'est la transition qu'on dit au Chili, c'est la démocratie à faible intensité ou la transition dans la mesure du possible. Ça veut dire le premier président qui arrive, il le dit très clairement. On va exercer la justice parce qu'il y a une demande forte de justice. Il y a beaucoup de victimes, il y a beaucoup de gens qui ont été persécutés, tués, disparus, exilés. Voilà. Mais il dit, bon, on va avoir ça, mais dans la mesure du possible. Donc, évidemment, cela génère très peu d'adhésion de la population vers ces projets-là. Les situations, ce n'est pas par hasard que la première manifestation, disons, d'autonomie face à cette politique, ça vient des peuples originaires, donc des Mapuches. Et déjà en 1991, ils se manifestent à nouveau publiquement pour leur revendication de récupération des terres qui les avaient été confisquées pendant la dictature, pour une reconnaissance en tant qu'entité ethnique et politique, et pour une participation en tant que citoyen à part entière. 10 ans plus tard, la situation explose tout à fait dans un domaine différent, que celui des étudiants. Comme c'est le cas au mois d'octobre dernier, la situation explose par une situation complètement banale. Au Chili, les étudiants, ils ont droit à une remise dans le prix du transport public. Donc, pour justifier le fait que quelqu'un est étudiant, il doit avoir un carnet, une carte qui accrédite le fait qu'il est. Mais comme les transports publics au Chili sont privés, donc ça dépend du transport du privé que ces carnets soient octroyés. En 2001, pour des raisons techniques, ces carnets-là, pour des raisons parce que l'imprimerie était en retard, parce qu'on n'avait pas fait les commandes au temps dû, carnet était en retard. Donc, au début de l'année, au mois de mars, hémisphère sud, donc au début de l'année, et les étudiants se trouvent qu'ils doivent payer, qui ont des conflits avec les transports, parce qu'ils ne peuvent pas payer et justifier qu'ils sont étudiants. Donc, ça déclenche une grève. Et cette grève, c'est pour des raisons bien précises. Il faut accélérer l'octroi. Mais en attendant, ils gardent la grève, continuent en grève, tant qu'ils n'ont pas eu de satisfaction à leur demande. Et dans cette démarche des discussions, surgit d'une certaine façon le germe politique, évidemment. Enfin, la question est pourquoi les transports marchent mal, pourquoi on est sujet à ces types. Donc, les mouvements se politisent. Donc, il y a des grèves étudiantes très, très importantes. L'attitude du gouvernement est celle de tout gouvernement pour écraser ou pour empêcher qu'un mouvement se développe. Il nomme multiples commissions d'études et des consultations. Mais la situation revient à nouveau sur le début de la scène en 2006, avec ce mouvement qui a été très connu, ouais. Et celui des pingouins. Pingouinos parce que les lycéens, ils portent un costume noir avec une chemise blanche. Donc voilà, ils s'appellent eux-mêmes, c'est autodénominé les pingouinos, pingouins. Donc ce mouvement, il a déjà un caractère beaucoup plus politique, beaucoup plus... Je crois que les étudiants, en ce moment, les lycéens, et qu'ils représentent un pouvoir. Donc, ils continuent, on pourrait dire, jusqu'à maintenant, dans des manifestations multiples. Toujours la demande, c'est dilu dans des commissions. Mais les manifestations, pratiquement depuis 2006, les manifestations des lycéens, pour différentes raisons, ne se sont jamais arrêtées. Et on dirait que depuis 2006, les lycéens sont dans une assemblée continuelle. À cela, dans les années 2011, il y a le grand mouvement des féministes. Le mouvement féministe, on peut l'expliquer au Chili parce que, et peut-être je peux citer une expérience propre, je suis rentré d'exil en les années 90, j'ai retrouvé une génération de femmes qu'on les appelait au Chili les quarantonas, les quadragénaires libérés ou les quadragénaires libres. Enfin, je ne me rappelle pas, mais c'est allusion au fait que c'était des quadragénaires qui avaient une attitude complètement différente des femmes que j'avais connues 17 ans plus tôt au Chili, des femmes qui passaient de la tutelle des parents à la tutelle du mari, avec une participation importante dans la vie professionnelle, mais toujours soumise à l'autorité soit parentale, soit du mari. Donc des femmes qui étaient indépendantes. En général, c'était des femmes qui étaient professionnelles, qui étaient indépendantes économiquement et qui, dans la presque totalité des cas, avaient démontré dans le fait qu'ils étaient capables d'assumer une famille, assumer la responsabilité économique et d'éducation d'une famille. Et ceci pour une raison bien simple. La majorité des hommes, pendant l'époque de la dictature, soit étaient morts, étaient disparus, étaient exilés, ou étaient en clandestinité, ou au chômage. Donc, ce sont les femmes qui ont pris la première ligne de la lutte. Donc, ces mouvements des femmes qui commencent à se manifester publiquement en 2011, on peut l'expliquer grosso modo. Sûrement, il y a d'autres considérations. Il y a une tradition très partielle, qui peut-être, des luttes féministes au Chili qui part à partir de 1946, donc juste après la guerre. Après cela, il y a aussi toute une série de manifestations d'assemblées populaires, d'assemblées régionales. Face à des problèmes aussi très concrets de chaque région, il y a des situations face, par exemple, à l'installation d'une abattoir qui va provoquer la pollution des eaux, qui va provoquer la pollution de l'air, etc. Et c'est une petite région qui réussit par la mobilisation de la population, par le biais des assemblées populaires qui arrivent à, et malgré les menaces, s'il n'y a pas abattoir, il n'y aura pas d'emploi, ça condamne au chômage aux gens, ils expriment leur volonté de ne pas accepter. Il y a les cas aussi dans le début de la deuxième décennie de 2000, les cas d'une région à l'extrême sud du Chili, qui est près de du détroit de Magellan, qui reste pendant pratiquement 60 jours en autarcie, une autarcie complète, face aussi à certaines situations qui ne conviennent pas à la population. Donc on peut voir que finalement, cet mouvement qui explose en octobre 2019, ce n'est pas un fait qui est occasionnel, ce n'est pas un fait qui explose comme ça, qui arrive du ciel. Non, c'est le résultat d'une longue lutte, et sur laquelle il y avait multiples signes avant-coureurs, ça c'est sûr. Les modèles, d'après les enquêtes des Nations Unies en 2017, il avait une image négative, une image contraire, de l'ordre du entre 90 et 95%. Donc, ça ne pouvait plus résister.
D'accord. Je pense qu'on va se retourner un petit peu sur la situation en Équateur, qui pendant 12 jours, les mouvements autochtones, en plus, ils sont ralliés aussi les syndicats, les femmes, les étudiants et les classes moyennes, ont réussi à empêcher la mise en place des réformes, des ajustements structurels demandés par le Fonds monétaire international. La même raison que la question qu'on a posée pour le Chili, ce mouvement ne vient pas non plus de nulle part. Il a inséré dans une tradition des luttes en Équateur et qui réactivait des réseaux solidaires qui étaient un peu laissés de côté. Alors, soit c'est Rosario, soit Monica, laquelle des deux ?
Je ne sais pas si on commence à voir pour l'histoire. Je vais parler un petit peu de l'histoire aussi, et puis Monica, elle parlera de l'actualité.
Donc, toi, c'est Rosario.
Donc, oui, bonsoir, Paris Pluriel. Merci beaucoup de nous avoir reçus et puis de nous donner la parole, surtout. Et puis, mon nom, c'est Rosario, et on représente le collectif d'Équatorianos en France. Donc, notre histoire, je vais la raconter à partir des années 80. Et quand on a commencé avec la présidence d'Osvaldo Hurtado en 1981, Febres Cordero en 1984 et Rodrigo Borja en 1988. Et là, on était en plan une période extrêmement capitaliste et néolibéraliste, planteada por este grupo de, vamos a decir en Ecuador, on va dire en Équateur, on a une espèce de caudillisme. Je ne sais pas comment on dit en français, caudillo. Je ne sais pas s'il y a la traduction.
On comprend qu'on dit caudillo.
Oui. Donc, ça s'est maintenu jusqu'à les années 90. Et je pense qu'en Équateur, on a vécu déjà le capitalisme assez fortement, puisqu'on était pratiquement vendu au Nord-Américain et à l'Europe. Et le peuple était sacrifié en but des grosses fortunes qui avait en Équateur, qui sont jusqu'à maintenant, en fait, qui se maintient jusqu'à maintenant en Équateur et qui font de notre pays justement un pays qui est mené par ces capitalistes. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que dans ces années-là, l'FMI avait déjà implanté ses doctrines, en fait. Et nous étions un pays qui vendait de la matière première. Et ça ne se ressemble pas à la population chilienne, pour ce que je viens d'écouter, parce que nous n'avons pas d'organisation syndicaliste. Malheureusement, en Équateur, ça n'existe pas. Il y a des mouvements, oui, il y a des organisations, comme par exemple la CONAI, qui existe depuis très longtemps et qui a mené la révolte en Équateur. Donc, c'est la partie indigène, je ne sais pas comment on dit, indigène, qui mène les révoltes et qui font face justement au gouvernement qui mène ces politiques de capitalisme capitaliste en Équateur. Donc, à l'époque de León Febres Cordero, je ne sais pas si c'est dans les mêmes dates, en 1990, 1984, où l'Équateur c'était comme un laboratoire à l'époque du plan Condor. Équateur. Donc là, on a eu pas mal de persécutions. La population, il était vraiment réprimée par cette politique de terreur qui avait justement avec Febres Cordero. Et ce que je peux signaler à cette époque-là, c'est qu'on a eu beaucoup de gens qui étaient torturés, qui étaient massacrés, mais on n'a pas eu un exil fort parce que de toute manière la politique économique n'était pas aussi dévastatrice, on va lui dire. Ce qui s'est passé après en 1990 quand on avait avec le gouvernement de Abdallah Bucaram, de Lucio Gutiérrez et de Jamil Maguad en 1999, qui a conclu, on va dire, avec les politiques qui menaient depuis 90, cette politique dévastatrice et de dépouillement des gens. Avec Jamil Maguad, on a eu justement
espagnol.
Fue el comble.
C'est le maximum.
Voilà, on a eu le maximum. On a eu l'explosion, on va dire, de cette politique-là. Et en 1990, s'est donné le feriado bancario.
Oui, mais dis-le comme ça, feriado
bancario. El feriado bancario qui a provoqué justement
la fermeture des banques.
Et il y a beaucoup de gens qui sont restés sans son argent, l'argent qu'il avait gardé depuis longtemps, depuis très longtemps, des années, le travail de toute sa vie. Et ça aussi a provoqué la sortie de plus de 2 millions de gens. Ils sont partie de l'Équateur, et ça a provoqué aussi des morts. Donc cette force dévastatrice du capitalisme qui vivait en ce moment l'Équateur a forcé la population justement à partir, et on va dire que nous sommes le fruit de cette politique, et pourquoi nous sommes aussi à l'extérieur, pourquoi nous vivons en dehors de ces pays-là, c'est parce que à cette époque On a vécu tout ça. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont restés sans son argent. De plus que la politique qui menait à cette époque, on n'avait pas vraiment de droits. Je parle en ce moment comme migrant, quand je suis arrivée ici, j'ai connu pour la première fois la sécurité sociale, les droits des travailleurs, des choses qu'en Équateur, il n'y avait pas. Donc, c'est avec l'arrivée du gouvernement en 2007, Rafael Correa, que nous avons connu, à peu près, il a mis en place
législation du travail.
Voilà, des acquis sociaux que nous n'avions pas avant. Donc, ça, c'est un peu l'histoire que nous avons en Équateur. Après, je pense que tu peux développer ce qu'on a vécu récemment et pourquoi justement
le soulèvement
en Équateur, oui.
Alors, Monica.
Je vais essayer, bonsoir. Donc, en Équateur, on vit actuellement un retour en arrière. Les politiques néolibérales appliquées de préférence au pays en voie de développement, donc l'Équateur en plein dedans, font un retour fracassant avec les mesures économiques que nous connaissons tous, hein, qui ne sont favorables qu'aux grandes entreprises, à la banque, les groupes financiers. Pour parler du président actuel, hein, donc Lénin Moreno, c'est un personnage qui a trahi littéralement son peuple en appliquant un programme politique d'extrême droite et non pas celui de la gauche progressiste pour lequel il avait été élu. Il mène ainsi une politique ouvertement néolibérale qui bénéficie l'oligarchie, le secteur financier, le FMI et les grandes industries nationales et transnationales. Ce qui a donné comme résultat un taux de chômage de 4,9%. 350 000 emplois ont été supprimés. 4 milliards de dollars d'impôts ont été pardonnés aux banques et aux grosses entreprises. En même temps, Lénin Moreno annonce un état de déficit pour pouvoir imposer des mesures économiques draconiennes affectant les secteurs de santé, d'éducation, d'emploi et les productions agricoles nationales. Et il réussit en même temps, avec ces mesures, à discréditer le travail de transformation vers le transformation progressiste, on va dire, en Équateur, que l'Équateur avait hérité durant le mandat de l'ex-président Rafael Correa. Les accords menés avec le FMI et la soumission de Lénine Moreno aux exigences de celui-ci, l'acceptation d'une base militaire des États-Unis aux îles Galapagos et la rupture de l'engagement de protection de Julian Assange ont mis Lénine Moreno sur la liste des pires présidents équatoriens que les pays n'aient jamais connus.
Il y a aussi la législation du travail qui était mise en cause. C'est ce qui avait été acquis au niveau des lois du travail.
Tout à fait. Donc je vais en parler aussi. Ça, c'était pour résumer quelque part le ras-le-bol qui a donné après l'insurrection du peuple, donc, qui a été effectivement menée au départ par la CONAIE, donc le mouvement indigène d'Équateur. Et donc je finis juste avec ce que je disais, que donc il est devenu ainsi un des pires des présidents que l'Équateur n'a jamais connu. La judiciarisation de la politique avec la complicité des médias est un autre abus de pouvoir de Lénine Moreno. Il utilise la justice pour persécuter ses adversaires politiques et empêcher de façon je dirais obsessionnelle le retour de l'ex-président Rafael Correa et les membres de son parti et tous ceux qui le suivent. Ça, c'est, je dirais, le but final, absolu de Lénine Moreno, qui s'est allié donc à la politique de l'extrême droite et tous ceux que Rosario a cités qui venaient déjà menant une politique néolibérale depuis les années 80-90. Donc l'insurrection qui a eu lieu le 2 octobre de l'année 2019, hein, qui vient de s'écouler, c'est à partir justement de ce ras-le-bol, suite à une annonce d'un décret appelé 883, légalisant la hausse de la libération des prix des carburants, et a provoqué donc cette grosse manifestation de façon massive par ce mouvement de la CONAIE, mais qui a été suivi par le peuple des classes moyennes et les classes en dessous, qui étaient touchées de plein fouet par cette mesure économique prétendue, en tout cas par Lénine Moreno. Et entre guillemets, on va dire, grâce à ce mouvement qui malheureusement a coûté des vies, Lénine Moreno n'a dû que reculer donc de sa tentative de mettre en place ce décret. Mais ça n'a été qu'une façade parce que, au final, la CONAIE, qui était le
moteur de ces forces.
Voilà. Et, au final, ils ont fini par faire une sorte de négociation avec le gouvernement qui n'a fait que reculer d'un pas pour. Comme on dit en français, reculer pour mieux sauter. Ça n'a pas donné des grands changements en fait. Hein. On continue dans une situation assez catastrophique de la politique qu'il mène aujourd'hui, Lénine Moreno. Donc, ce que je peux dire de ce processus, c'est que effectivement. Depuis des décennies, l'Équateur, comme tous les autres pays, la plupart en tout cas de l'Amérique latine, on a été ce qu'on appelle nous le patio trasero des États-Unis, l'arrière-cour des États-Unis, qui n'a eu que pour but depuis que l'on a conscience que de s'approprier des ressources naturelles qui ont ces pays-là et ont faire leur grosses entreprises et donc mener ces ressources à la privatisation, hein, créer des entreprises privées. qui nous donne effectivement accès aux besoins basiques des Équatoriens, en parlant de l'Équateur. La santé devient privée, l'éducation devient privée. C'est des choses que nous, on considère qui devront être un droit. Aujourd'hui, ce sont un privilège. Et c'est tout ça qui crée cet énorme écart entre les riches et les pauvres. Et c'est ces mouvements sociaux qui existent actuellement en Amérique latine et ce qui a donné en Équateur, ce n'est que ce ras-le-bol, en fait, hein, de non plus pouvoir. Parce que qu'est-ce qui nous fait sortir dans les rues? Qu'est-ce qui nous fait... même aller au-delà de la peur de mourir, c'est la pauvreté qui grandit de plus en plus, qui nous étouffe jour après jour, qui nous empêche de l'accès à l'essentiel, qui est l'éducation et une bonne santé. Et effectivement, c'est ce que l'ex-président Rafael Correa a instauré en Équateur durant sa décennie dans son gouvernement. Et aujourd'hui, il est chassé. Il a été chassé. Il a plusieurs comment on appelle procès, des condamnations sans aucune preuve, qui l'empêchent aujourd'hui de retourner en Équateur et peut-être de, entre guillemets, tenter de sauver ce pays qui se meurt dans une politique néolibérale.
On va pas rentrer dans le débat, mais je pense qu'il y a aussi je pense que sauver le pays, c'est seulement les mouvements dans la rue qui les feront. C'est pas des hommes qui, même avec la meilleure volonté, qui pourront le faire. C'est la force qui a fait reculer le gouvernement actuellement. Mais on va... Lucien nous demande de faire une pause musicale, mais en tout cas, je pense que ce qu'on peut retenir de ce que vous avez dit les uns et les autres, c'est que ces politiques néolibérales, d'une façon, et le Chili, effectivement, c'est connu comme c'est un laboratoire de ces politiques, presque le berceau des politiques néolibérales, et ces politiques sont prises leur lettre des noblesses, si on peut parler comme ça, sous la dictature de Pinochet. Et après, effectivement, vous avez raconté dans l'Équateur, c'est arrivé plus tardivement en Argentine, associé sous la dictature, que les bases de ces politiques libérales ont été établies. Et ce qu'on peut retenir, c'est que ces politiques sont rien de naturel, parce que tout ce que tu nous racontais, Fernando, des mouvements qu'il y a eu au Trois-Rosario, au Équateur, c'est des résistances à ces politiques. Et donc, ces politiques néolibérales ne sont pas naturelles et ce n'est pas quelque chose qui va de soi, comme, bon, c'est une petite histoire ici, c'est comme Macron les prétend par rapport à notre réforme des retraites. Rien de naturel, rien d'inévitable. Et la lutte que vous nous avez racontée prouve que ces politiques sont imposées. Ce n'est pas des choses qui vont de soi.
Corriendo.
Mais vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3, je voulais les dire tout à l'heure, même si on est au Café Solidaire, d'un site, une émission en direct public.
Non. On peut aborder la situation actuelle. Bon, je l'ai fait d'abord à propos du Chili, mais je crois que c'est intéressant de voir les liens communs qui existent entre les différents pays d'Amérique latine et pour chercher, disons, la racine commune de ces mouvements actuels et de chercher d'une certaine façon ce qui a été traditionnellement l'ennemi commun ou les ennemis communs, à savoir l'impérialisme nord-américain actuellement, mais autrefois l'impérialisme anglais. Immédiatement après l'indépendance, les indépendances des pays latino-américains qui se sont passées pendant les deux ou trois premières décennies du XIXe siècle, les mouvements indépendantistes ont compté avec les concours très, très importants de l'Angleterre. Mais l'Angleterre, ces concours n'étaient pas gratuits, évidemment, n'étaient pas objet de la bonne volonté de la couronne britannique. C'était parce qu'il y avait un espace économique à remplir. Jusqu'au moment des indépendances, celui qui contrôlait le commerce, la grande activité à cette époque-là, c'était l'Espagne, ça veut dire la puissance coloniale en Amérique latine. Donc, une fois que la puissance coloniale espagnol a été mis hors jeu, il fallait remplir cet espace. La possibilité était celle de, justement, qu'à l'intérieur des différentes anciennes colonies surgissent une classe économique, une classe importante, mais avec un sens patriotique, ce qui n'a pas été le cas. Je ne sais pas quelle est l'histoire des autres pays. Je sais que dans les cas du Chili, la constitution la plus importante et qui a duré le plus longtemps dans l'histoire chilienne, c'est, comme toutes les autres, une constitution qui a été imposée par l'oligarchie suite à un coup d'État. Et l'objectif essentiel, c'était de garder les pouvoirs de cette oligarchie et d'ouvrir le commerce et d'ouvrir les portes aux puissances extérieures, donc à l'époque à l'impérialisme britannique.
Oui, bonsoir. J'arrive en retard à l'émission. J'étais déjà depuis un moment là.
Hein. Ouais. Sinon, on ne comptait pas te répéter ce qu'on avait dit. Hein.
Oui. Je suis Claudio Pulgar-Pino, je suis franco-chilien et je fais de la recherche autour de la production de la ville. Mais je suis militante ici en France aussi, militante au Chili, militante en France. Je ne vais pas raconter ma biographie, je pense que ce n'est pas ça l'important. C'est plutôt la discussion où on est. Et même si je suis d'accord avec cette analyse de la longue histoire que pourrait faire dans le sens Brodel, tous ces processus, on ne peut pas les comprendre que pour les dernières décennies, sinon c'est des processus de long, long terme. Mais j'aimerais bien rajouter que c'est pas non plus, on peut pas parler que de l'impérialisme nord-américain ou anglais. Je pense que à le moment où on est aujourd'hui dans le capitalisme globalisé, c'est une espèce de nouvel impérialisme qui est basé sur les actions des multinationales qui dépassent les frontières. Là, c'est la France, c'est l'Italie, c'est les États-Unis, c'est même les pays asiatiques, etc. Donc ça dépasse cette idée un peu 20e siècle de l'analyse que de l'impérialisme. C'est mon avis. Hein. Peut-être que j'ai lancé un nouveau débat. Mais moi
en tout cas, c'est un effet de la mondialisation.
De la mondialisation qui pour les historiens, c'est pas un processus nouveau non plus.
Non, mais c'est un processus aussi long.
Aussi long plutôt que
le capitalisme lui-même.
C'est ça. Et à ça, on peut rajouter, parce que je pense qu'il faut avoir un avis un peu décolonial face à cette histoire. Et on peut rajouter des sortes de données qui dépassent. Et je pense que c'est important d'analyser, même si on parle aujourd'hui de l'Amérique latine, c'est important de dépasser cette analyse que c'est seulement de regarder comme si l'Amérique latine c'était une île dans un planète différent. Et ce regard décolonial, je pense que c'est très important de comprendre que dans le processus actuel où on est, et c'est ça qui est le plus intéressant, parce que la résistance et les révoltes sont globales aussi. On est vraiment dans un moment d'une vague de révolte au capitalisme, dans sa phase néolibérale, mais au capitalisme qui dépasse l'Amérique latine, qui dépasse, c'est en Europe, c'est au Soudan, en Irak, à Haïti, au Chili, en Équateur, en France, en Espagne. Et c'est pas depuis quelques mois. Ça fait, on pourrait faire au moins les derniers cycles, ça fait 10 ans là, qu'on est dans ce cycle, au 15. On pourrait dire qu'après la crise globale économique de 2017-2008, la crise financière, on est dans ce cycle. Et je pense qu'on est, entre guillemets, à la fin, dans un moment très important, dans un point d'inflexion de ce cycle. On le voit aujourd'hui en France. Aujourd'hui, on est dans une journée historique. Là. Il y a eu des milliers de personnes, des chiffres qui sortent maintenant, c'est parle de plus d'un million et demi de personnes dans la rue en France aujourd'hui, dans les manifs. Ça fait 35 jours qu'en France, on est dans une grève. On peut pas parler encore de grève générale, mais on est dans une grève très importante qui est en train d'avancer vers un blocage du pays et pour une réforme des retraites. Et je vais faire les liens avec l'Amérique latine, avec le Chili. Et on est, et ça c'est mon hypothèse, j'essaye de parler de ça avec tout le monde, on est dans la chilénisation, on est dans un processus de transformation de chilénisation de la France et du monde entier. Mais c'est très clair, la réforme des retraites, c'est très clair. Pinochet a fait la réforme des retraites en 1980, les systèmes des fonds de pension au Chili, c'est le modèle, c'est le laboratoire dans tous les domaines. Oui. Mais les retraites, c'est vraiment un cas d'étude très intéressant, parce que c'est le modèle de capitalisation, c'est le modèle de... Donc, toute cette richesse qui appartient aux travailleurs, de la passer au secteur privé, aujourd'hui, on parle des BlackRock, aujourd'hui, mais pas que, mais tous les fonds de pension internationaux qui gèrent ça, c'est des gens qui viennent, on pourrait faire la caricature, c'est des pirates qui viennent à récupérer un trésor qui appartient à tous les travailleurs d'un pays, que c'est la retraite, et on est dans ces cas aujourd'hui en France. Et les modèles... Ça a été le Chili. Et les modèles des retraites chiliens sont exportés partout dans le monde, avec des différences, des nuances. Mais c'est cette idée de, finalement, comme Harvey parle, d'accumulation par dépossession. C'est la même chose avec les ressources naturelles, c'est la même chose avec les droits sociaux en général.
Mais en Chili, une chose qui j'ai été effarée, c'est que l'eau est propriété privée.
C'est le seul pays au monde où les rivières. Les rivières, pas que le...
Non, c'est pas le robinet, c'est robinet, la rivière.
Ça, c'est, il y a plusieurs pays et plusieurs villes qui ont privatisé. Mais au Chili, c'est les rivières qui appartiennent aux entreprises privées. Des entreprises françaises, des entreprises italiennes, des entreprises espagnoles. Et ça, c'est important. Là. C'est pas, donc, dans cette idée, et je remarque cette idée pour parler aussi de la France, pour pas dire... Parce que je sens que... Quand on parle que de l'Amérique latine, on tombe dans un piège de parler comme si c'était quelque chose d'exotique, d'extravagant, avec une guitare.
Et c'est pas ça. Pour dire justement qu'à travers l'Amérique latine et les luttes, ça nous parle à nous-mêmes de notre situation. C'est pas exotique, c'est pas une question d'exotisme.
Oui, non, je dis pas que vous. Je dis pas. En général, les gens, les journalistes dans les journaux, etc., on est dans ce regard un peu hégémonique qui fait comme si c'était une autre réalité. Et ça, c'est un choix politique de faire ça pour dire que ici on est différent. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on est entre guillemets en train de résister aux choses que nous on a vécues au Chili il y a 30 ans, il y a 40 ans. Et c'est très important, donc, et je finis l'idée avec ça, c'est la résistance qui est dans ce moment dans les rues au Chili depuis 90 jours presque, que c'est un soulèvement populaire qui tient la rue tous les jours, depuis 90 jours, c'est très lié à la résistance qu'on est en train de faire aujourd'hui ici en France depuis 35 jours. Et on doit faire ces liens et construire cette idée de que c'est une révolte, c'est une vague de révolte mondiale et la solidarité, c'est égal.
Alors, José, avant de te donner la parole, je vais donner la parole à Rosario.
D'accord. Merci. Je voulais juste faire un petit point sur ce que tu viens de dire par rapport au capitalisme qui s'exporte, comme tu dis, en Europe et que nous, on l'a vécu depuis plus de 50 ans chez nous en Latinoamérique. Et je vois d'une manière différente parce que cette capitalisme qui s'installe à nouveau chez nous, et c'est comme une espèce de colonisation, une nouvelle colonisation. Quand on voit en Bolivie qui cette dame qui vient usurper, qui se proclame présidente en Bolivie, qui arrive avec la Bible et la croix, pour moi, c'est une espèce de colonialisme qui s'implante et qui vient justement des États-Unis. Qui vient des pays du Nord, parce qu'elle est appuyée justement par les pays du Nord. Et ça arrive la même chose en Équateur aussi, puisque en ce moment, le parti qui vous s'imposait aussi en Équateur, ça s'appelle Social Cristiano. Et quand ils sortent dans la rue, quand ils s'habillent de blanc, ils sont accompagnés de curés, et ils proclament la venue avec l'Église et tout ça. Donc, c'est une nouvelle manière. Ça ne se passe pas ici, en France, ni en Italie, ni en Espagne. Je suis complètement d'accord en ça. Mais pourquoi ils le font justement en Amérique latine? Pourquoi nous, on est traités de cette manière-là, comme si on était arriérés, voilà, et pas ici? C'est complètement différent.
Parce qu'on n'est jamais sorti des régimes coloniaux.
C'est pas été la réponse. José, tu voulais me poser une question. Alors approche-toi de la table.
Alors, c'est tout petit. Je suis venu, quand j'ai vu les thèmes, je suis venu parce que parler de l'Amérique latine, je ne peux m'empêcher de faire des parallèles avec l'Afrique. Alors, l'Amérique latine a connu des régimes militaires, ok, atroces, comme l'Afrique a connu aussi. Et à un moment donné, il y a eu une vague de démocratisation, des élections, etc. Et en Afrique aussi, il y a certains pays, élections, entre guillemets, ok. Mais maintenant, je vois des tendances. Bon, il y a certaines choses que j'observe aujourd'hui. Et j'étais stupéfait d'apprendre que la constitution utilisée aujourd'hui au Chili, c'est la constitution héritée de Pinochet. Alors moi, je me suis posé des questions. Entre le régime de Pinochet et de Sébastien Pinera, même si je ne le porte pas trop dans mon cœur, comment est-ce que... Bon, ça, c'est mon point de vue. Hein, comment est-ce que la même constitution... Hein, pouvait être appliqué et il y a des élections. Il y a des militaires qui reviennent au pouvoir et des régimes totalitaires par le biais des élections. Je vois ce qui se passe au Brésil. Je vois ce qui se passe à l'Équateur, vous commencez à parler. Et je me pose la question parce que moi... Quand je vois ce qui se passe en Amérique latine, je ne peux pas m'empêcher de penser à ce qui se passe en Afrique. Voilà.
Moi, je voulais rajouter une petite tac-à-tac. Je suis complètement d'accord là. C'est l'Afrique, c'est l'Amérique latine, c'est l'Asie, mais c'est l'Europe aussi. On oublie qu'il y a eu des dictatures en Europe il n'y a pas longtemps. Là. En Espagne, au Portugal, en Grèce, l'Europe du Sud, il y avait des dictatures qui ont tenu et qui ont entre guillemets gardé, qui ont donné l'Espagne, c'est l'exemple concret. L'histoire politique espagnole et chilienne, c'est très similaire dans le sens de la transition démocratique, l'arrivée encore de la monarchie et les les pactes qui ont gardé les modèles. Et après, bah, si on revient, même si on n'a pas eu une dictature en France les dernières décennies, l'installation du processus néolibéral, c'est pas avec Macron qui a commencé, c'est depuis les années 80. Donc même la grosse différence, c'est que au Chili, si on revient en Équateur, au Chili, ça a été imposé par une dictature, donc rapidement et sans possibilité de contester politiquement, même s'il y a eu une résistance dans la rue qui a fait tomber Pinochet finalement, et pas un référendum, c'est les gens qui étaient dans la rue pendant une décennie là, dans les années 80, qui a fait tomber Pinochet et qui a été récupéré après par la classe politique. Mais ça, c'est une autre chose. Là, en France, depuis les années 80, qu'on est dans cette vague d'installation du modèle néolibéral, la gauche du gouvernement et la droite ont fait ça. Et ça, c'est pour ça que j'insiste dans le sens qu'il ne faut pas, c'est mon avis, hein, peut-être qu'on n'a pas tous le même avis, de tomber dans la caricature de que ce qu'en Afrique ou qu'en Amérique latine. J'essaye d'être provocateur pour dire que les choses finalement sont très liées. Et cette modèle, le néolibéralisme, c'est pas une espèce de recette seulement économique. Je pense que ça, c'est hyper important de le dire. Et on est en train pour ça, nous, on est aujourd'hui à Paris et on est en train de le vivre dans notre chair, très clairement. C'est un côté, c'est un modèle économique. Bah, les réformes des retraites et toutes les réformes qui a passé Macron et les derniers gouvernements, la loi travail, etc., vont dans ce sens. Mais c'est aussi un modèle de construction des subjectivités. Que ça, c'est les choses qu'on ne voit pas. C'est les plus profondes. Au Chili, c'était le plus important. La grande révolution, entre guillemets, culturelle qui a été faite au Chili depuis une décennie, là, que c'est les étudiants qui l'ont menée en 2011 avec la grande explosion du mouvement étudiant, c'était de dire, de changer les subjectivités, de dire, on arrête, c'est pas naturel, comme tu disais, c'est pas naturel de payer pour nos droits sociaux. C'est pas naturel. Avant, mes parents ou mes grands-parents, mon père, il a été à l'université publique et gratuite. Et moi, j'étais à l'université publique, mais payante. Pourquoi ? Et pourquoi la génération d'avant, ils pouvaient aller à l'université gratuite quand le Chili était un pays 10 fois plus pauvre ? C'est la même chose en France. Pourquoi on a eu des retraites après la guerre, un modèle de sécurité sociale, quand la France était 20 fois ou 10 fois plus pauvre qu'aujourd'hui ? Et aujourd'hui, ils nous disent non, le système de sécurité sociale, des retraites, ça ne marche pas parce que on est endetté, etc. C'est pas vrai. Il a eu jamais autant de richesses aujourd'hui dans le monde et dans nos pays comme aujourd'hui. Le problème, c'est que c'est pas partagé, cette richesse. Et c'est ça le problème. Et dernière idée autour du néolibéralisme, le néolibéralisme, ça marche pas sans la violence, sans la répression. Bah, le Chili, c'est très clair. L'Argentine, les dictatures qui ont tué des milliers de personnes.
Même aujourd'hui, pour empêcher, il y a 11 000 blessés, 200 éborgnés et 26 morts au Chili.
Ouais, 350 éborgnés.
Ah, 350.
Ouais. Et c'est énorme. C'est
un chiffre qui n'avait pas évolué.
Mais en France aussi, il y a une trentaine d'éborgnés depuis un an des mouvements des Gilets jaunes. Il y a des milliers de gens emprisonnés, des centaines de gens qui sont en prison aujourd'hui. On pourrait dire des prisonniers politiques, des mouvements sociaux aujourd'hui en France. On ne parle pas beaucoup de ça. La répression de cet après-midi, c'était énorme. Hein. Mais les matraquages, la quantité de gaz lacrymogène dans la rue, ici, aujourd'hui, à Paris, c'est énorme. Et ça, il faut le dénoncer. Donc, la seule façon de soutenir le néolibéralisme en Équateur, au Chili, en France et ailleurs, c'est avec les matraques, c'est avec la répression, c'est avec les prisons politiques. Et je pense que ça, il faut les dénoncer, il faut le parler. Et on pourrait parler peut-être après comment on fait pour supérer ça, pour dépasser cet néolibéralisme sauvage.
Pardon, et Monica ?
Oui, par rapport aux façons de réprimer, de bloquer les manifestations, il y a aussi un système qui fonctionne partout dans le monde, qui fonctionne très très bien, qui est ce qu'on appelle la manipulation des médias. Et ça, on en est victime en Équateur, partout en Amérique latine, en Europe,
en France,
aux États-Unis, partout dans le monde. Ce que Michel Collomb, le journaliste belge, appelle, c'est les médias mensonges, qui sont les premiers complices et les premiers intéressés, d'ailleurs, à ce que ce modèle politique néolibéral continue parce que tout simplement ce sont les premiers propriétaires des chaînes privées qui bénéficient donc de ce système politique et qui forcément vont faire tout pour pour noyer le problème, mais pour empêcher les gens d'une véritable prise de conscience de ce qui se passe réellement dans le monde. Et ça, je pense que c'est aussi une façon de lutter contre ces peuples qui se révoltent, qui vont dans la rue, et qui marchent très très bien, comme ça a été d'ailleurs avec le mouvement de Gilets jaunes, qui a été par les médias diabolisé, parce que c'était ceux qui mettaient la violence dans la rue, qui cassaient les casseurs, etc. Et quand on va sur le terrain, et ben c'est pas comme ça que ça se passe, mais c'est ce qu'on voit à la télévision. Et les gens qui ne se posent pas la question, ils allument leur télévision, ils arrivent du travail, ils allument la télévision, ils se disent « Ah, waouh, c'est comme ça que ça se passe !» Mais oui, mais non, c'est pas comme ça que ça se passe. Mais malheureusement, cette prise de conscience qui commence à se réveiller est encore insuffisante, trop petite par rapport à ce monstre qui écrase et qui fait l'écart entre les pauvres et les riches aujourd'hui.
Fernando. Ça me rappelle, pendant la guerre d'Algérie ici en France, l'information pour désolidariser les Français par rapport à ce peuple qui militait par cette l'État, que l'Algérie était considérée comme un territoire français, mais au niveau des droits de vote, ce qu'on appelle indigènes, autochtones, n'ont pas le droit de voter, plein de choses, l'inégalité et tout, comme petit à petit certains commençaient à se réveiller, eh ben pour que les Français ne soient pas forcément d'accord avec cette injustice, le pays de la révolution et du droit, alors on leur dit, ce sont des, on donne une image des gens violent, qui cassent, etc. Je me rappelle quand j'étais venue en France, on m'avait dit vous êtes des sauvages, vous cassez des tas de trucs, mais le Français et le pauvre, il a l'information, il a une idée, l'information que lui donne le pouvoir, et donc c'est normal. Par exemple, comment on a voulu casser la Nuit debout, on a parlé de violence, on a oublié que la violence elle existait en dehors de la Nuit debout, bien avant et après, mais pour casser la Nuit debout, eh ben, pas mal de gens, en entendant ça aux informations, ça casse et tout, alors qu'ils peuvent être profondément solidaires avec cet état d'esprit, eh ben, par peur et surtout par violence, eh ben, on se désolidarise de quelque chose qui est là pour nous protéger. Excusez-moi d'être plus longue. Mais comment, par exemple, il y a aussi des journalistes, des jeunes qui sont, pour moi, victimes aussi, pour qu'ils gardent leur salaire. C'est comme des ouvriers qui travaillent quelque part, et pour ne pas perdre leur emploi, pour ne pas être licenciés, ils s'écrasent, ils manquent de solidarité avec une injustice que le patron peut exercer face à un des collègues. Quand on a parlé des Gilets jaunes, parmi les reporters, je suis sûre qu'il y a pas mal qui ne sont pas contre, mais s'ils s'expriment, s'ils laissent la lumière, juste la lumière, même pas donner leur point de vue, ils risquent de perdre leur boulot et ne pas avoir leur salaire. Alors comment trouver un moyen que l'argent ne soit pas le but, mais un des moyens parmi d'autres? Et tant que l'argent devient le but, eh ben, notre révolte est étouffée. Excusez-moi. Merci, Malika. Fernando.
Oui, je voulais parler justement en tant que journaliste de ce qui signifie les médias actuellement. Les médias, ils font partie intégrale du système des pouvoirs. Les médias fonctionnent comme n'importe quel entreprise de travaux publics, comme une entreprise de ponts et chaussées, comme une entreprise de charcuterie. C'est le même critère pour avec la différence qu'il y a une répercussion beaucoup plus grande dans la société. Ça veut dire que ce n'est pas pareil de travailler dans une charcuterie que travailler à la télévision, bien évidemment. Donc, les systèmes ont créé un système des valeurs individuelles pour justement créer une espèce d'élite, une espèce de gens soumis aux obligations du système pour qu'ils ne transmettent que les valeurs du système. Mon expérience à l'agence France Presse, ce n'est qu'une expérience, ça veut dire les gens... Pourtant, l'agence France Presse, c'est un organisme qui n'est pas public, mais qui a été créé justement pour éviter cette concentration du pouvoir économique sur un média important comme est celui qui vend l'information. Donc, c'est un cas bien particulier. Il y a une loi précise qui a créé la France Presse. Mais finalement, la France Presse aussi dépend du système, nécessairement. Donc, on se soumet aux obligations du système ou on ne fait pas carrière. C'est tout simplement là. Et si on ne fait pas carrière, on n'a aucune résonance dans l'opinion publique. C'est pareil dans la télévision publique. Ça veut dire, c'est qui ? Des personnages, je ne vais pas les nommer, des personnages qui restent pendant 30, 40 ans sur nos écrans, toujours à vendre la même sauce, toujours à vendre la même. Pourquoi ils sont restés comme ça ? Parce qu'ils se sont soumis aux conditions qui leur ont imposé les pouvoirs publics. Les pouvoirs publics qui sont complètement identifiés avec les pouvoirs économiques et les pouvoirs des grandes entreprises, des grands groupes multinationaux.
Je vous recommande de regarder un film, je te donne la parole, qui s'appelle Les Nouveaux Champs de Garde, qui parle très bien de ce sujet et que c'est très pédagogique pour parler de ce sujet des médias et du pouvoir politique.
Je voulais juste rebondir par rapport à ce que vous venez de dire. D'ailleurs, ceux qui veulent parler ou ceux qui ont osé parler, comme par hasard, eh bien, ont été mis à l'écart, ont disparu. Hein, pas mal de journalistes qui ont disparu parce qu'ils voulaient s'opposer et s'imposer pour ne pas vendre une information qui est fausse. C'est dit très simplement, mais c'est la réalité. Et donc, il y a eu pas mal de disparus partout dans le monde. Hein. Donc, c'est un phénomène qui est mondial et qui favorise le système actuel de ce qu'on est en train de parler. En fait, aussi.
Alors, dommage, José est sorti de la salle actuellement, mais bon, on va quand même... Il a parlé qu'il était surpris de découvrir que la constitution qui est aujourd'hui au Chili, c'est une constitution qui date de l'époque des Pinochet. Mais je pense que c'est quand même un bon exemple pour dire qu'on peut avoir une rupture politique, entre guillemets, qui, s'il n'est pas accompagné d'une rupture économique... Ça, en fait, s'est traduit par une continuité. Et ce qu'a vécu El Chili depuis la fin de la dictature, en fait.
Parce que, si je peux dire quelque chose autour de ça, c'est Claudio et Fernando à côté, là. Et là, il n'y a pas une rupture politique, une rupture politique au Chili.
Non plus.
C'était un processus de transition à la démocratie, mais qui a été la continuité de la dictature. Avec Pinochet, il est resté chef de l'armée jusqu'en 98. Donc, pendant presque une décennie après que la démocratie avait entre guillemets arrivé. Donc, quelle démocratie garde son dictateur comme chef de l'armée pendant 10 ans ? Ça, c'est pour faire un film de science-fiction, là. Et la constitution. Et surtout, je pense qu'il faut rajouter dans le cas chilien. Parce que des fois, on perd un peu la mémoire et on oublie. Les gouvernements dits démocratiques, ils ont approfondi les modèles néolibéraux. Et ça, c'est, il faut le dire. Là. Ils ne sont pas que administrés, les modèles néolibéraux. Ils l'ont approfondi. Les systèmes des prêts universitaires, ça a été installé dans les années 90, donc après la dictature. La privatisation de tous les systèmes sanitaires, ça a été en 98, donc en pleine démocratie, entre guillemets. Et comme ça, on pourrait faire une liste énorme des choses. Donc, c'est vraiment une continuité économique et politique. C'est le même projet hégémonique qu'on nomme ici, dans cette table, néolibéralisme. Mais c'est un processus... Moi, je pense qu'il faut parler plus que du néolibéralisme comme un truc... concret et avec une seule forme, c'est un processus de néolibéralisation où on est tous dedans, où ça avance des fois plus rapidement, plus lentement. Et moi, je voulais mettre une autre idée sur la table. Je ne sais pas si j'ai le droit.
Et Lucien, il a le droit ?
Oui. D'accord. Merci, Lucien. Et je pense que les moments historiques qu'on est, et peut-être que c'est mes préoccupations actuelles, mais on est dans un moment d'urgence aussi. Et l'urgence, ça fait cette vague des résistances et des révoltes. Mais on est face à une urgence sociale, face aux inégalités, tant ici en France comme ailleurs dans le monde, mais une urgence écologique aussi. que c'est lié. Parce qu'on pourrait dire qu'on est dans une face de la Terre, là, qu'il y a des économistes et des citoyens qui ont nommé les capitalocènes. Donc ça veut dire que c'est le capitalisme aujourd'hui qui est en train d'être informé. C'est les changements climatiques. Et la cause de ça, c'est le modèle de production où on est. C'est le capitalisme. C'est le modèle de croissance. Et donc, c'est ce même modèle qui génère, qui fait cet contexte d'inégalité, qui veut faire une contre-réforme des retraites aujourd'hui en France. C'est le même modèle qui défend Lénine Moreno. C'est le même modèle qui défend Piñera au Chili. C'est le même modèle qui essaye d'installer les FMI partout dans le monde, ou la Troïka ici en Europe. Et donc, je pense que c'est hyper important aussi de comprendre et de ne pas mettre, entre guillemets, des choses comme prioritaires, comme dire « Ah non, mais aujourd'hui, c'est important la lutte, seulement la lutte sociale. » Je pense qu'on est vraiment dans un moment historique où on doit mettre au même niveau la lutte pour une écologie radicale, une écologie sociale, une écologie qui est radicale dans le sens d'aller à la racine et qui est en plus un outil pour contester les modèles capitalistes qui sont en train de nous tuer. Les choses qui sont, par exemple, en train de se passer en Australie, là, dans ce moment, les incendies des forêts, la fumée est en train d'arriver au Chili, en Argentine, à 12 000 km de distance. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas non plus, et je reviens à mes idées au début, on ne peut pas non plus parler des choses qui sont séparées. La fumée montre qu'on est vraiment dans une crise de la globalisation planétaire. Et ça, il doit nous faire agir et réagir, mais surtout agir aujourd'hui où on est, dans nos quartiers, dans notre boulot, dans nos centres d'études, etc. Et je pense que la chose qui montre le Chili, l'Équateur, la France, le Soudan, l'Irak, etc., etc., cette révolte aujourd'hui, ça montre très bien cette urgence pour agir, pour contester, mais aussi pour construire un nouvel avenir. Et je pense que ça fait un moment aussi qu'on est en train de construire ça. C'est pas une espèce de grand soir qui va arriver, qui va changer le système. Je pense qu'on est plus ou moins dans plusieurs endroits en train de les construire aujourd'hui. Ces alternatives. À niveau local, à niveau des villes, à partir du municipalisme, à niveau aussi des projets politiques, etc. Je pense que ça, c'est très important de parler de ça dans l'urgence. Et j'ai fini avec une dernière idée, c'est le féminisme. Ici, on est... Ouais. Vous êtes plus des camarades, des compagnes en table, mais l'idée du féminisme, la vague féministe qu'il y a eu au Chili les dernières 200, qu'il y a eu en Espagne, qu'il y a eu en Argentine, c'est très important, là, parce que c'est lié aussi, les patriarcats, les capitalisme et cette idée des consommations des ressources naturelles, ça va de la main, ça. C'est même le néocolonialisme dont on parlait, ça va tout ensemble. Et cette vague féministe qui est en partie, c'est au cœur de la résistance aujourd'hui au Chili. Et il faut le reconnaître, ça. Les camarades féministes qui ont occupé les facs les dernières deux années, qui ont été dans la rue par des milliers. On installait un sujet qui était en visibilisé par la gauche historique. Là. Personne ne parlait des féminismes. Oh, personne ne parlait du néocolonialisme. Et personne ne parlait d'écologie. Je pense que ça, c'est les sujets qu'on doit mettre sur la table aujourd'hui, liés à cette contestation anticapitaliste qu'il y a dans le monde.
Rosario.
Oui, je voulais rebondir justement sur les choses que tu viens de dire. Par rapport au... Surtout, je voulais te poser une question, en fait. Par rapport au climat et tout ce qui se passe en ce moment, on écoute depuis quelques années qu'on va manquer d'eau, qu'on manque de l'eau, et finalement je me pose la question, est-ce que ce n'est pas justement cette vague, cet capitalisme qui crée cette idée de qu'on va manquer de l'eau? Il commence à s'approprier aussi de ces ressources pour le vendre après. Est-ce que ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas Oui, moi, je me pose la question parce que quand tu dis on va dans un système, le capitalisme crée tous ces systèmes-là et justement le fait de voir comment on est, comment le climat change, comment tout se dégrade autour de nous à cause justement de cette agriculture qui est très une agriculture monopoliste,
monoculture, et expansionniste,
voilà, expansionniste, qui est en train de voilà, qui est intensive, qui est en train de finir avec les recours. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière vraiment?
Mais
qu'est-ce qu'il y a derrière?
Je sais pas la réponse, mais c'est quand même le capitalisme peut-être dans une nouvelle phase d'accumulation et qui accumule, c'est les ressources naturelles. C'est sa nouvelle richesse, c'est s'accumuler de celles-là.
Et c'est pas très nouvelle, hein. C'est historique là.
Il y a une accélération.
Oui.
C'est pas très nouvelle, mais on vient depuis des années, on en met dans la tête. On va manquer d'eau, on manque de ci, on manque de ça. Mais quand tu vois, il y a certaines régions où il y a, c'est vrai, il manque d'eau, mais il y a des régions où on a beaucoup d'eau. Par exemple, ici en France, on a pas mal d'eau. Moi, je peux me baigner tous les jours si je veux. Mais dans des autres endroits, il n'y a pas d'eau.
Bah oui,
Donc, qu'est-ce qu'il y a derrière?
Fernando.
Je pense qu'il y a une différence essentielle entre les faits de manquer d'eau, enfin, sur le manque d'eau, et la prise de conscience de cette destruction qui a été provoquée par les capitalistes. Je crois qu'il y a un fait nouveau, que c'est la prise de conscience écologique. Ça veut dire qu'il y a une prise de conscience qu'on est en train de détruire la planète. On a une prise de conscience de cette situation, mais il y a aussi qu'il y a celui qui a causé cette destruction croissante de la planète, c'est le capitalisme. Parce qu'il y a des situations bien claires, par exemple, qui sont peu connues. Par exemple, en Asie centrale, il y a une mer, c'est la mer d'Aral, qui a disparu complètement. C'est ce qui signifie. Parce que toutes les ressources... Les ressources hydrauliques, là, ils ont été pompés par l'industrie pétrolière. Donc, ils sont allés chercher la mer, là, sous terre, là, les ressources, et ils ont séché la mer d'Aral. Donc, il y a un fait concret qui était peu connu. Mais maintenant, on sait pourquoi il y a ces problèmes d'eau. En même temps que le capitalisme, finalement, détruit la planète en utilisant... et en mal utilisant l'eau, il crée cette psychose qu'on va manquer d'eau. Pourquoi? Parce que comme ça, l'eau devient un bien, devient
une richesse,
une source de revenus. C'est, on marchandise l'eau. Et dans le cas du Chili, c'est très, très, très concret. Au Chili, on a séché des rivières, justement parce que...
On a séché exprès.
Oui, on les a séchés exprès parce qu'il y avait des plantations d'avocats, par exemple... énorme plantation d'avocats. Donc, on a séché des rivières pour les dévier et arroser les plantations d'avocats.
C'est ce qui se passe aussi en États-Unis, où les grosses industries assèchent les rivières pour s'approvisionner eux dehors.
Oui.
Et après, ils le vendent en petits...
Oui.
Donc,
ça devient
c'est l'eau des robinets.
Comme ça, le capitalisme
il y a les agriculteurs qui ont besoin d'eau, et les petits agriculteurs, mais s'ils ne payent pas par rapport à la, parce qu'il est déjà dans la bourse aussi, et s'ils ne payent pas par rapport au prix de la bourse, ils vont assécher, ils vont laisser son eau. Dès qu'ils ont payé, pouf, ils ont de l'eau. Donc, pour moi, c'est pas très. Je pense que on manque pas vraiment d'eau, mais comme on avait dit, ça devient une marchandise.
Je pense que ça dépend où. Le problème, c'est la marchandisation, c'est clair. Oui. Mais il y a des régions où ça manque vraiment, et où il y a des régions, par exemple, en Mexico, la capitale du Mexique, on dit oui, aujourd'hui, ça manque pas l'eau, les gens peuvent prendre des douches aussi. Mais il y a un risque. J'ai entendu parler aussi qu'en Île-de-France, il pourrait y avoir un risque à un moment s'il y a un manque d'eau. On dit oui, on est bien ici. On est à l'abri, mais c'est pas tellement, et c'est pas pour dire que c'est une théorie du complot, rien à voir. C'est, je suis d'accord avec vous, c'est la marchandisation, et surtout, je pense que si on voit aux racines du modèle, c'est les modèles de croissance, cette idéologie presque religieuse de la croissance, qui est en train de nous tuer, qui est en train de tuer la planète et tous les êtres vivants, et qui est une façon de combattre, entre guillemets, et qui est une façon qui n'a pas été inventée aujourd'hui, c'est une façon historique, et qui parle beaucoup aussi de la ville où on est, c'était la construction des biens communs. Et pour changer l'idée qui a été installée aussi, cette idéologie de la propriété privée, et qui est l'outil, les vecteurs idéologiques pour la marchandisation des ressources naturelles, des droits sociaux, etc. C'est l'idée de qu'il y a la propriété privée, de que chacun pour soi, l'individualisme, etc. Et face à ça, je pense qu'il y a une vague énorme dans le monde, et c'est ça, pour ne pas rester un peu dans le diagnostic terrible qu'on est en train de face à l'effondrement, etc. Je pense qu'aussi il y a un côté d'espoir, d'espérance, des gens qui résistent et qu'on est en train de construire aussi un projet, on va dire, contre-hégémonique, et par exemple qui est basé sur les biens communs, sur les communs. Comment on construit des biens communs? Et l'eau, par exemple, c'est un exemple très concret, mais la ville aussi pourrait devenir un bien commun. Les logements, les transports, etc. C'est très important ça, parce que c'est des choses qu'on avait soin pour nous reproduire et pour vivre et pour garder la planète. Là. Et
mais ça, le capitalisme, ça ne l'intéresse pas.
Ah, mais bien sûr que non. Ça, c'est un projet anticapitaliste, mais complètement anticapitaliste. Mais on parle des biens communs.
Le capitalisme, il se nourrit, c'est par notre aveuglement, parce qu'on n'a pas saisi que le bien commun qui m'est propre, par exemple, ça me fait penser à 68. Dans notre lutte, c'était notre identité propre de chacun. Et chacune de nous était écrasée sous prétexte de protection de la famille, du pays, etc. Et c'est vrai, lorsque ton identité est écrasée, etc. Mais voilà, suite avec 68, on a retrouvé cette identité propre. Mais avec un esprit égoïsme. C'est-à-dire, même certains psychiatres ou psychologues, quand l'autre, il dit, t'occupe pas ton frère, c'est son problème. Au lieu, on n'a pas réussi à conjuguer le jeu avec le jeu de chacun de nous pour faire un tout. C'est-à-dire, j'écrase pas mon identité propre, mais je l'enferme pas. Mais comment apprendre à la conjuguer avec le jeu de chacun de nous pour faire un tout? Et le capitalisme, il se nourrit de notre individualisme, parce qu'on n'a pas compris. Je me rappelle, dans la rue, une femme, je lui ai dit, mais je vais abréger, je lui ai dit, il faut être solidaire avec les personnes de l'hôpital. Elle me dit, moi, je suis égoïste, je pense qu'à moi. Je dis, justement, puisque tu penses qu'à toi, t'as intérêt à être solidaire, parce que demain, l'hôpital fermé, le personnel réduit, toi qui penses à toi, et tu es malade, un microbe, c'est... comment tu vas te soigner? Alors, comment il y a l'éclairage, c'est-à-dire que le capitalisme, pour te donner la liberté, pense qu'à toi, c'est sans problème, etc. Moi, à l'époque, dans Paris, quand j'allais dans ces surfaces où on vend plein de choses, il y avait plus de solidarité entre les collègues. Et donc, si le patron voulait abuser pour envoyer une collègue, il faut vraiment que ça soit une raison qui tient debout. Et petit à petit, avec l'individualisme, et la peur du moment que c'est elle qui est renvoyée, c'est pas moi, je suis touchée, mais c'est pas pour ça que je vais manifester, j'ai intérêt à m'écraser. Mais elle s'est pas rendue compte. En la renvoyant, elle s'affaiblit tôt ou tard, etc. Comme je dis, quand la mythe, elle commence sur une manche droite et la manche gauche, elle dit, moi, c'est pas mon problème, puisqu'elle est... Mais elle sait pas que petit à petit... Si elle reste indifférente, eh ben, la mythe, elle va s'installer un jour chez elle. Demain, mon voisin, il manque d'eau, c'est pas moi, mais demain, ça serait moi. Alors, comment faire et réfléchir? Excusez-moi d'être un peu longue.
Les mouvements qui ont lieu à ce moment, notamment au Chili et aussi en Équateur, ils posent les problèmes de faire la politique autrement. Et Fernando, tu nous as parlé des il y a des assemblées, il y a ce qu'il appelle los cabildos, où il y a des discussions très horizontales par rapport à des décisions locales. En Équateur, il y a des réseaux de solidarité indigènes qui avaient été un peu en désuétude et qui sont revenus à l'avant. Alors, est-ce que vous pouvez pouvez un peu parler de cette façon de poser la question de la démocratie? Fernando?
Moi, je pense que c'est très simple. Là. C'est qu'il y a des changements qui, à mon avis, ne peut pas revenir en arrière dans les mouvements des Gilets jaunes, justement, c'était celui de rond-point. Et les ronds-points, ça a été une découverte incroyable dans une société qui, à mon avis, est essentiellement individualiste, comme la société française, et qui a fait découvrir un nouveau visage de cette société. Alors, moi, je pense que c'est très simple. Je crois que le fait de parler ici entre nous et de faire connaître la pensée par rapport à des thèmes bien précis, c'est déjà une façon de faire, disons, une sorte d'assemblée populaire. Ceux qui vont nous écouter et pourront tirer leurs conséquences. Et je pense que ce type de réunion, j'imagine qu'il y a une certaine peur de dire quand on va à une assemblée, quand on va à une réunion, il a un côté très solennel, parfois très formel. Je crois que les gens au Chili, d'après ce que j'ai entendu, ce n'est pas nécessaire que ce soit solennel. Au contraire, souvent, ça se fait autour d'une fête. En général, c'est fait autour d'un plat, d'un repas. C'est fait autour d'une bouteille de vin. Et on discute.
La
bouteille des vins, les asados, comme on dit au Chili, ou les...
Las parrillas,
n'empêchent pas de parler de politique. Et je crois que c'est comme ça qu'ils surgissent les grands mouvements. Les cas des lycéens après le premier mouvement, en 2001, les mochilas, les étudiants commençaient à discuter du fait qu'ils n'avaient pas la carte qui les reconnaissait comme étudiants. Mais c'est comme ça qu'ils ont créé un mouvement qui est à l'avant-garde actuellement.
Moi, je voulais rebondir sur les assemblées parce que je pense que c'est très important dans le cas chilien et d'une façon aussi dans le cas français aujourd'hui, les ronds-points, les gilets jaunes, mais pas que, depuis la nuit des vues et les choses qui se passent aujourd'hui. Là. Et au Chili, il y a été recensé plus ou moins, je pense que ça reste un peu petit, 15 000 depuis le 18 octobre, 15 000 assemblées des quartiers qui se sont créées et qui sont en train de délibérer et de construire, entre guillemets, un espace démocratique horizontal à niveau local qui est très important. Mais qui n'est pas que seulement la discussion, c'est la lutte. Il tient les barricades, il tient les blocages. Et si on fait les liens avec les choses qui se passent aujourd'hui, j'étais dans plusieurs blocages des dépôts de bus de la RATP les dernières semaines. Et ils se sont transformés en espèce de rond-point au mode gilet jaune. Hier matin, à 5 heures du matin, on était 400 personnes à Pantin dans le dépôt de bus de la RATP. Et même si c'était pas une assemblée, mais on était des centaines de personnes différentes qui viennent des univers et des horizons différents, en train d'occuper un lieu, de bloquer, mais aussi de construire cette délibération, de parler, de partager, de nous regarder face à face. Et je pense que c'est ça. Et j'ai fini l'idée. On est en train de construire des assemblées des communs aujourd'hui aussi.
Lucien est désespéré. Il dit qu'on arrive à la fin. Alors, Rosa,
juste donner un petit exemple pour revenir à la solidarité. C'est ce qu'il a fait l'ex-mandataire, l'ex-président Rafael Correa. Il a créé des assemblées tous les samedis où il parlait avec toutes les gens de chaque communauté, où il parlait, il partageait aussi. Il mangeait ensemble, il parlait de ce qui s'est passé dans le gouvernement, de tous les projets qu'il avançait, et il donnait une espèce de partage en général, en laissant derrière cet individualisme que le gouvernement crée quand il se réunit simplement avec à porte fermée avec son groupe de gens qui vont décider pour tout un peuple.
Je pense qu'on ne peut plus rien dire.
On en fera une deuxième.
C'est promis. Bon, bah, merci de votre participation et bon, à bientôt.
Merci. Un rocaille, un dauphin dans le bassin. Tourne ton rang, une erreur, c'est l'océan.